Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour les 30 prochaines minutes. Aujourd'hui, 6 communautés au nord du 49e parallèle au Québec font l'objet d'une étude sur la valorisation des déchets et l'économie circulaire.
Dans toutes les communautés nordiques qu'on a visitées, ils ont toutes des similarités. Ils sont loin des grands centres, sont de petite taille et ont des problèmes au niveau de la gestion des matières résiduelles, surtout pour favoriser le recyclage et la valorisation de ces matières-là.
Le 49e marathon international d'Ottawa était, c'est le cas de le dire, très couru le week-end dernier. Près de 30 000 personnes avaient leurs espadrilles aux pieds, c'est sans compter bien sûr les spectateurs.
Je me sens pas mal, même si la fin était assez compliquée. Pas mal de chaleur pendant toute cette course. J'ai fait un bon split plus rapide au début. Et puis après, je me suis dit, je vais me calmer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de chaleur. Et j'ai bien fait parce que les deux derniers kilomètres étaient vraiment durs.
Et des jeunes des villes d'Edmonton et de Toronto s'accueillent l'un l'autre. Question d'apprendre à mieux se connaître.
La majorité des gens ici au Canada est issue de l'immigration, en fait. Donc, nous sommes tous venus d'ailleurs. Donc, quand on arrive ici, on ne se connaît peut-être pas trop bien. Quand on se connaît très bien, je crois qu'on peut être toléré et accepter l'autre.
Ceci est un peu plus à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci d'être là. On prend tout de suite la direction du Grand Nord du Québec où l'on cherche à prendre des habitudes plus vertes, plus environnementales via la récupération des matières résiduelles, le recyclage et l'économie circulaire. Des consultants de la firme Englobe ont été mandatés par Recyc Québec. Le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles du Québec et la Société du Plan Nord a fait qu'une analyse de flux des matières résiduelles soit réalisée au sein de 6 communautés situé sur le territoire du Plan Nord, incluant une entreprise minière. Les chercheurs et analystes se sont arrêtés dans les communautés de Chapin, de Chevry, de Fermont, d'Inujuak, de Longue-Pointe, de Mingan et de Mistissini. Il s'agit d'une première étude du genre à l'échelle de la province, nous dit-on. Le document produit de 150 pages présente aux autorités gouvernementales son analyse des besoins et pistes de solutions pour chacune des 6 communautés afin qu'elles se fassent plus vertes. De nombreuses pistes d'économie circulaire ont été identifiées dans ce rapport. L'analyse de flux de matières résiduelles dans la ville minière de Fermont au Québec suggère des pistes d'action et d'optimisation des matières résiduelles. On parle là de compost, de déchets ultimes, de matières recyclables dans les communautés nordiques. Fermont est une ville, donc on l'a dit, minière, où règne la compagnie ArcelorMittal. Notre collaboratrice Elisabeth Séguin y fait sa vie. Elle qui suit le dossier depuis l'an dernier, elle avait en 2002 parlé du lancement de cette étude avec Jean-Luc Bougnon, biologiste et chargé de projet de la firme Englobe, la firme qui a donc été mandatée pour réaliser cette étude.
Jean-Luc Bougnon, bonjour.
Bonjour.
Lorsque on s'était parlé il y a environ un an, vous étiez venu en studio, on avait jasé d'économie circulaire. Comment est-ce que c'était quoi un peu les constats que vous aviez faits dans notre communauté? Là, maintenant, vous avez une étude bien complète sur 6 communautés nordiques, donc de différents endroits à travers la Côte-Nord, aussi d'entreprises minières qui est ArcelorMittal, le Montréal et aussi Fermont qui en fait partie. Quels sont les constats, là, tout d'abord, que vous avez faits dans cette étude?
Écoutez, la chose est bien simple. Dans toutes les communautés nordiques qu'on a visiter, ils ont toutes des similarités. Ils sont loin des grands centres, sont de petite taille et ont des problèmes au niveau de la gestion des matières résiduelles, surtout pour favoriser le recyclage et la valorisation de ces matières-là. Les constats qu'on a réalisés auprès des 6 communautés sont à peu près tous similaires. Il y a évidemment des spécificités qui sont très, très distinctes, là. Par exemple, la communauté de Chevry qui est relié uniquement par bateau ou Inujuak a des conditions qui sont relativement différentes que celles de Fermont qui est relié quand même par la route malgré la distance qui les relie des grands centres. Donc, on est arrivé avec des rapports qui sont spécifiques à chacune des communautés, mais parlons plutôt de celle de Fermont qui a été une étude là qui impliquait évidemment les deux entreprises minières qui étaient de la région, dont ArcelorMittal et Minerais de Fer Québec. Les constats sont assez importants, à savoir que la gestion des matières résiduelles de Fermont qui sont envoyées dans un lieu d'enfouissement tranché, ben évidemment la ville de Fermont est en train d'évaluer la possibilité de relocaliser le site d'enfouissement pour favoriser un développement harmonieux avec les objectifs de 2023, qui est une réduction des déchets, qui va impliquer une réduction des gaz à effet de serre. Tout ça se fait en collaboration avec les deux entreprises minières. Oui, on s'adresse à la municipalité là, qui a des enjeux de gestion des matières résiduelles là, pour l'enfouissement, mais toute la question de la récupération des matières, une des actions qui est soulevée et qui est proposée, c'est la récupération du carton. Hein. On le sait, Fermont reçoit toutes les matières par train, plus ou moins, mais surtout par camion. Ça arrive sur des palettes de bois, ça arrive dans des boîtes de carton, ça arrive emballé dans du plastique. Et le carton est une ressource qui est facilement récupérable et que actuellement, je dis pas dans 4 ou 5 ans, mais actuellement a une valeur qui est intéressante et qui permet la récupération et la valorisation plus au sud. Donc, une des actions qui était proposée, d'ailleurs, la coop là, alimentaire de Fermont a une presse à carton. Okay? Et l'utilise que quelques heures par semaine pour presser le carton, récupérer ce carton-là et faire en sorte que les ballots de carton soient plus denses, ce qui augmente la valeur par voyage transporté vers le sud. Donc, cette presse à carton-là, on appelle ça de l'économie collaborative, une des actions, et de favoriser l'utilisation de cette presse à carton-là pour d'autres entreprises de la région, soit qui soient dans le mur directement ou soit qui soient à l'extérieur et puissent venir porter ou utiliser la presse et ainsi récupérer ce carton-là qui se ramasse actuellement dans le lieu d'enfouissement. Là, qui est, et même le propriétaire, du moins il y a un an, je ne sais pas s'il a changé d'idée, mais à l'époque, il y a un an, il disait que oui, il était très ouvert à une forme de collaboration avec les autres entreprises pour récupérer ce carton-là, qui est très important. Les volumes de carton sont très importants. Dans les autres actions qui étaient proposées, outre l'aménagement d'un lieu d'enfouissement qui est respectable, c'est utiliser les matières organiques pour faire du compostage. On le sait, l'industrie minière a de nombreuses superficies de parcs à résidus miniers ou de parcs à stériles, de halles à stériles plutôt, là, et auront besoin dans les prochaines années d'une quantité phénoménale de matière organique pour favoriser la végétalisation de ces parcs-là. C'est dommage de jeter des matières organiques qui seraient compostables et qui seraient utilisables dans les parcs à résidus, alors qu'actuellement sont envoyés directement dans le lieu d'enfouissement. Donc, il y a une perte de ressources et ça va faire en sorte que les entreprises vont avoir besoin d'importer des matières. Les matières organiques, ben, ils vont venir du sud. Donc, on parle encore de transport de gaz à effet de serre, alors que tout est en place pour valoriser ces matières-là et faire en sorte qu'il y ait un revertissement important de la région. Évidemment, il y a les palettes de bois. On parlait du carton, mais on parle également des palettes de bois qui transportent les matières du sud vers Fermont. Ces palettes-là ont une consigne soit de 10, 15 ou même des fois 50 $ sur chacune des consignes, mais les transporteurs ne voient pas d'intérêt à ramener ces palettes-là. Donc, ils les laissent sur place, ne veulent rien savoir de les ramener, du moins quelques-uns, pas tous, là. Alors, les palettes s'accumulent. Ça fait du bois qui n'est pas valorisé et qui est envoyé directement à l'enfouissement alors qu'on pourrait les utiliser pour faire de la matière organique, pour, encore une fois, la végétalisation des résidus. Vous avez tout est en place à Fermont, à part la logistique, mais tout est en place pour pouvoir valoriser au maximum les matières que vous recevez et faire en sorte que la région ait un moins gros trou à creuser dans les prochaines années.
Oui, c'est d'ailleurs ce que vous aviez dit là, lorsque vous étiez venu à Fermont. Vous aviez eu le temps de faire l'analyse terrain, de se rencontrer les gens et vous aviez dit que Fermont détient les outils nécessaires pour favoriser l'économie circulaire. Le développement dépend maintenant de la volonté des résidents, des entreprises locales. Là, maintenant, vous êtes arrivé avec votre étude, vous l'avez déposée, vous l'avez présentée. Est-ce que vous prévoyez faire un certain suivi? On a parlé des industries minières. Il y a beaucoup de lois et de règlements là, qui les obligent à repenser un peu leur façon de faire. Allez-vous faire un suivi auprès d'eux, auprès de la ville, pour s'assurer justement qu'il y ait des actions qui soient faites et qu'il y ait vraiment une économie circulaire qui se développe de mieux en mieux dans notre communauté?
Ça serait un souhait de notre part. Toutefois, il faut comprendre la nature du mandat. Ça a été octroyé par Recyc Québec et ses deux partenaires, qui est la Société du Plan Nord puis le ministère des Ressources naturelles. Le mandat se termine là. Donc, la balle est dans leur camp, à savoir comment que le gouvernement, comment que les municipalités vont pouvoir appliquer les mesures qui sont proposées. Dans un premier temps, évidemment, c'est de prendre connaissance des mesures qui ont été écrites et qui sont rendues publiques sur le site de Recyc Québec, mais il y aura un choix à faire. On peut pas attaquer l'ensemble des propositions d'un seul bloc et dire on fait tout. Il faut y aller avec des priorités. La ville de Fermont travaille actuellement sur le réaménagement de son lieu d'enfouissement et par la suite, ça sera de valider avec les autorités gouvernementales qui sont autant la municipalité que les autorités provinciales, Recyc Québec, Environnement Québec ou même le ministère des Ressources naturelles, voire la Société du Plan Nord, à savoir comment faire pour appliquer ces mesures-là. Malheureusement, pour nous, notre côté, notre travail se termine dans les prochains jours. Il n'y a pas de suite pour nous, mais il y a une suite pour vous. Mm-hmm, ça, oui. C'est certain.
Évidemment, puis vous aviez eu ce mandat de vous rendre dans les communautés et c'était la première fois qu'il y avait ce type d'étude qui était réalisée. C'est déjà fait dans des communautés plus urbaines, mais en milieu nordique, au nord du 49e parallèle, dans 6 communautés nordiques, entreprises minières, etc., c'était la première fois que vous faisiez ça. Est-ce qu'il y avait un certain défi à aller identifier les possibilités d'économie circulaire par chez nous, dans les différentes communautés que vous avez visitées, étant donné que ça n'avait jamais été fait?
Ben écoutez, nous on a été surpris hein, parce que on était un peu avec notre mentalité de grand centre urbain en se disant ah, on va arriver là, les gens il va falloir les éduquer sur l'économie circulaire puis ainsi de suite. Puis on est arrivé sur place là, Fermont, Chevry, Longue-Pointe de Mingan, Inukjuak, toutes les communautés appliquent déjà une flopée de concepts d'économie circulaire. Donc, je dirais même plus qu'ailleurs, plus au sud. Donc, il y a eu certainement de l'information à transmettre, l'éducation à donner à certains groupes de personnes qui sont moins sensibilisés. Mais creusez un peu là, dans la région de Fermont, vous allez trouver plein de gens qui font de l'économie circulaire. Ils ne savent pas ou ils savent, mais ils ne le disent pas. À l'éco-centre là, de Fermont, il y a les gens qui s'occupent de la gestion de l'éco-centre, font ça bénévolement, dehors de leurs heures de travail. Ils retirent du matériel qui est encore bon, qui a encore une vie utile. Et les gens le mettent de côté, puis le mettent sur le groupe Facebook de la ville, et vous pouvez soit faire un don, soit aller les chercher, les acheter même. C'est un concept. Une des 12 stratégies d'économie circulaire qui est déjà appliquée à Fermont. Il s'agit peut-être de le rendre plus efficace, plus structuré. L'économie circulaire, c'est quelque chose qu'on a perdu dans notre esprit, mais avant, nos ancêtres le faisaient ça abondamment. Là. Mm-hmm. Il n'y avait rien qui se jetait pour rien. Les propositions qu'on a fait dans les 6 communautés, ben moi, je suggère aux autres communautés qui n'ont pas participé à l'étude pour différentes raisons, ben de plagier qu'est-ce qu'on a fait. C'est tout à fait souhaitable. Lisez le document, lisez les stratégies qui sont proposées et il y a certainement des choses qui vont être applicables pour vous et ailleurs.
Merci énormément d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Le lien vers cette étude environnementale est disponible sur le site de Recycle Québec. Votre moteur de recherche préféré peut vous y conduire en tapant Jean-Luc Bugnon, Économie circulaire dans les communautés nordiques du Québec. C'est le titre du rapport Économie circulaire dans les communautés nordiques du Québec.
Bonjour, ici Adèle à Halifax en Nouvelle-Écosse. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Bon, il y a des années, je regardais un film et une femme à bord de son vélo rencontre une amie au bord de la route qui lui dit « Tu t'es remise au sport ?» Et elle de lui répondre, cigarette à la main et assise sur son vélo, « Quand l'envie de faire du sport me prend, je m'allume une cigarette et j'attends que ça passe. » Alors, je l'ai trouvée très bonne. Moi, j'ai arrêté de fumer en 2009, mais je ne me suis pas remis au sport pour autant. J'ai donc besoin de l'aide de notre journaliste Marie Hillès à Ottawa pour m'inspirer un peu, elle qui revient du Tamarack, le 49e marathon international d'Ottawa. Puis, il y avait du monde au total. Près de 28 000 personnes y ont participé. Le demi-marathon était le plus populaire. Il accueillait à lui seul plus de 8 500 coureurs. Ils ont défilé devant la colline du Parlement, à Gatineau, et le long du canal Rideau. Marie Hillès était à la ligne d'arrivée avec deux participants, dont Linda Gingras, résidente de Chelsea en Outaouais, elle qui a couru le marathon d'Ottawa, mais qui s'est aussi à la mi-avril classée meilleure québécoise et quatrième canadienne à la 127e édition du plus ancien marathon annuel au monde, celui de Boston. Les voici.
Remco Frank from Astoria, from Cornwall.
Linda, nous sommes aujourd'hui au Tamarack d'Ottawa. Comment tu te sens? Tu viens d'arriver à la ligne d'arrivée?
Ben, je me sens bien. C'était quand même une belle journée. Il fait beau. Puis on l'a fait à peu près à 5-10 kilos en 3h30. Donc c'était quand même un effort raisonnable.
Que penses-tu de l'organisation et de ce week-end d'une manière générale?
C'est vraiment bien fait. C'est une institution. Les gens viennent un peu de partout. Il y a le 2, le 5, le 10, le demi, le marathon complet. Donc, il y en a pour tout le monde. Les gens peuvent venir en famille. Les enfants participent aux 2, aux 5. Il y en a qui... Donc, puis la foule aussi. La foule est au rendez-vous. Les petits spectacles, les groupes qui se forment, les ravitaux, là, les ravitaillements d'eau avec des équipes qui sont animées. Donc, vraiment, tout le monde fait partie du succès de l'événement. Un chapeau à l'organisation. C'est sécuritaire. C'est bien indiqué. Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment rien à redire là, sur l'organisation. Donc, vraiment, chapeau à l'organisation.
Depuis combien de temps tu fais de la course à pied?
Ça fait une douzaine d'années. J'ai commencé parce que j'avais entendu qu'il y avait une course un peu levée de fond à une école secondaire près de où je vivais. Puis je courais régulièrement, mais sans monte, sans temps, sans vitesse. Puis je me disais, je vais être capable de courir. Les gens courent des marathons, un demi-marathon, je devrais être capable. Je savais même pas c'est quoi la distance. Puis j'ai couru, j'ai aimé ça. Puis après ça, j'étais sur le mailing list des courses. Donc, j'étais invitée, j'ai participé. Puis là, j'ai découvert une passion, un talent. Et c'est un mode de vie, donc la santé, une certaine rigueur. Je fais pas juste de la course à pied, du triathlon. Donc, il y a une variété aussi, une variété de sports. Une communauté aussi, des gens avec qui s'entraîner, qui ont un mode de vie un peu comme le nôtre, où on a un peu de plein air, de sport, de travail. Donc, il faut garder un mode de vie sain, équilibré, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, de sommeil. Donc, c'est un peu tout ça que la course apporte. La course, c'est une fin en soi, c'est un peu la fête, c'est le moment de se mesurer, c'est le moment de se fixer un objectif. Ça donne aussi un sens un peu à nos entraînements, ça nous motive d'aller s'entraîner quand il fait moins beau. Ça, c'est le but de la course, mais la course, c'est pas la fin en soi. Je pense que c'est toutes les... J'appelle ça les points fitness que ça nous donne au passage.
Sur l'ensemble des courses organisées en fin de semaine, c'est le demi-marathon qui a attiré le plus d'inscriptions avec 8710 coureurs. Gwenaël Carboas fait partie de ces coureurs. Il habite à Ottawa. Il est en préparation pour l'Ironman de Mont-Tremblant.
Je me sens pas mal. Même si la fin était assez compliquée, pas mal de chaleur pendant toute cette course. J'ai fait un bon split plus rapide au début. Et puis après, je me suis dit, je vais me calmer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de chaleur. Et j'ai bien fait parce que les deux derniers kilomètres étaient vraiment durs. Au final, par rapport à les dernières, je gagne 12 minutes. Je suis content. C'est une bonne préparation pour l'Ironman de Mont-Tremblant, donc très satisfait.
Tu ne fais pas uniquement du course à pied, tu prépares un Ironman ?
Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la première étape avant d'arriver sur l'ultime goal. Alors, on ira faire un petit tour à Muskoka pour voir ce que ça fait un half Ironman à un mois du but principal. Et puis après, on ira se mesurer au meilleur à Mont-Tremblant.
Comment est-ce que le triathlon et la course à pied est venu dans ta vie ?
C'est toujours comme ça que ça se passe. J'ai un copain là, dans mon escadron de gendarmerie mobile à Beaune à l'époque qui faisait du triathlon tout seul. Il s'est dit, tiens, j'ai besoin d'un partenaire pour me motiver. Et j'ai commencé à faire du distance olympique pendant une vingtaine d'années. Et puis rebelote, après 20 ans, il y a un autre gars qui est venu me voir. Il me dit, tiens, ça t'intéresserait pas de faire l'Ironman de Nice ? Je lui ai dit, bah, c'est un peu long pour moi, il faut quand même beaucoup d'heures d'entraînement. Puis finalement, je me suis dit, tiens, je vais me prendre au jeu en avant. Et en 2013, je faisais mon premier Ironman et maintenant, bah, c'est une espèce d'addiction, on ne peut plus s'arrêter.
Qu'est-ce que tu aimes dans la course, que ce soit dans la course à pied ou dans les Ironman ?
Ce que j'aime bien, c'est les moments où on se pose plein de questions. On passe d'un extrême à l'autre, on se dit, qu'est-ce que je fais là et quel abruti d'avoir fait ce truc-là. Et puis 10 minutes après, on se dit, bah, bon, je me suis bien entraîné, je suis pas mal. Donc en fait, c'est le corps qui parle pour lui-même. Donc on discute avec soi-même, c'est ça que j'aime bien, ces moments tout seul.
Cette année, près de 28 000 coureurs ont participé à la fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa.
Une centaine de personnes, dont de nombreux citoyens canadiens d'origine iranienne, ont convergé vers la place Diouville à Québec le week-end dernier pour dénoncer les violations au droit international qui ont cours en Iran. Les opposants au régime, les minorités religieuses et des membres de la communauté LGBTQ+, ont été pris pour cible par le régime iranien de l'ayatollah Khamenei. Ceci alors que les exécutions se multiplient dans le pays. Selon le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, près de 200 personnes ont été exécutées depuis le début de l'année en Iran. Steve Carignan a recueilli les commentaires de deux manifestants, Parvin Ramezani, coordonnatrice à Amnesty International section Québec, et une autre iranienne qui a préféré garder l'anonymat par peur de représailles envers elle et sa famille en sol iranien.
Les derniers mois, c'est le taux d'exécution s'est augmenté en Iran. Et comme par exemple, on peut dire que chaque 6 heures, il y a une exécution et il y a plusieurs gens qui sont en danger d'être exécutés.
C'est vraiment important parce qu'on va, on a la voix des gens en Iran. Parce qu'ici, on a beaucoup de liberté pour parler et dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Et, c'est vraiment important pour nous.
On prend quelques moments pour vous dire qu'on a une pensée pour nos amis de la région d'Halifax en Nouvelle-Écosse et de l'Alberta, touchés de près ou de loin par les feux de forêt. Ça s'est vraiment gâté à Halifax. Plus de 200 maisons et structures ont jusqu'ici été endommagées. On vous souhaite des vents favorables, du temps frais et de la pluie. Plusieurs de nos journalistes suivent l'évolution de la situation au quotidien. Retrouvez-les en français ou d'autres journalistes en anglais sur canada-info.ca. Bonne chance.
Bonjour, ici Judy Lesallier au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Imaginez avoir entre 12 et 17 ans et avoir l'opportunité de voyager au Canada dans le cadre d'un échange interculturel. Des jeunes originaires des villes d'Edmonton et de Toronto ont pu en profiter, financés en cela par le programme Échange Jeunesse d'Expérience Canada. Ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes, ils étaient accompagnés de leurs tuteurs, bien sûr, les organismes Global Share Support Youth Association de Toronto et l'Alliance Jeunesse et Famille de l'Alberta Society. La première visite visite a eu lieu du 19 au 26 mai. La seconde se tiendra du 2 au 6 juin à Toronto. Dans le cadre de ce programme, les participants sont jumelés à des groupes du même âge qu'eux, demeurant dans une autre province ou territoire. Le programme échange Jeunesse-Expérience Canada permet ainsi aux jeunes d'apprendre une autre langue, de se sensibiliser à une nouvelle culture, de lever des barrières sociales et de développer des compétences en leadership et tisser bien sûr des relations solides quand c'est le cas. Éline Koulou en parle avec Robert Souraki Watom.
Oui, en fait, c'est un programme qu'on appelle le programme Échange Jeunesse Canada. Et puis cette édition, c'est l'édition 2023. Puis la GFAS a déjà commencé à faire ce programme depuis le début, en fait, depuis 2001. Il y a 2 ans, on devait aller au Québec, mais on n'a pas pu aller à cause de la COVID. Puis on a repris cette année. Et nous espérons que ça va vraiment continuer. Aujourd'hui, cette année, nous recevons un groupe de Toronto qui est arrivé ici le 19. Ils repartent. Et puis le groupe de Edmonton va aller à Toronto du 2 au 8 juin 2023. En fait, le programme d'échange, c'est d'abord pour connaître le Canada, échanger, connaître les différentes cultures et raconter les autres aussi. Et puis, quand ils se retrouvent comme ça, ils échangent. Puis, ça peut créer aussi d'autres amitiés aussi entre les jeunes. Je crois que c'est un programme très, très important, surtout sur le multiculturalisme canadien, en fait.
D'ici le 2 juin, une délégation de 20 enfants d'Edmonton, accompagnée de 4 leaders, visitera aussi la ville de Toronto pendant 6 jours pour le même programme.
En fait, ce qui s'est fait, c'est que quand nous on reçoit, c'est nous qui organisons. Et lorsque nous on se déplace, c'est l'organisation qui nous accueille, qui organise tout. Et donc, quand on sera à Toronto, c'est plutôt l'organisation de Toronto qui va tout organiser. La majorité des jeunes qui sont venus de Toronto sont d'origine asiatique, en fait. Et puis, le fait de rencontrer les jeunes aussi ici, beaucoup plus venus de l'Afrique et de l'immigration africaine, ils ont fait la connaissance, mais pas seulement. Ils ont cherché à connaître certaines cultures et tout ça. Ils ont échangé, ils ont trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, ils ont même demandé qu'on puisse continuer, en fait, en dehors des programmes d'échange, continuer la collaboration de façon que nous puissions faire des expositions, des choses comme ça, sur la culture africaine et pourquoi pas aussi sur la culture asiatique. Je crois que c'était une très belle expérience. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont partagés actuellement. Il y a des gens qui sont multiculturalistes, mais d'autres parlent de l'interculturalisme. C'est presque la même chose, en fait. C'est juste que ce sont les différentes cultures qui se mélangent. Mais je crois que c'est important, et surtout ici au Canada, parce que la majorité des gens ici au Canada est issue de l'immigration, en fait. Donc, nous sommes tous venus d'ailleurs. Donc, quand on arrive ici, on se connaît peut-être pas trop bien. Ce sont des choses comme ça qui sont très importantes. Je crois que quand on se connaît très bien, je crois qu'on peut être toléré et accepter l'autre.
C'est là-dessus que prend fin cette édition de Point de vue. Nos journalistes cette semaine, Elisabeth Séguin à Fermont, Éline Koulou à Edmonton, Marie Hillès à Ottawa et Steve Carignan à Québec, coordonnateur national Stéphane Bénard. L'émission Point de vue est produite par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa, avec évidemment la précieuse et inoubliable collaboration de votre radio. Merci à vous de nous tenir compagnie. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. À la semaine prochaine. Ciao.
LJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.